21h passées de quelques secondes sur Radion. Très bonne soirée à toutes et à tous. Voici Wagon Livre, votre rendez-vous littéraire comme chaque mercredi sur votre radio locale. 323e numéro et dernière émission de l'année 2017. Je vous rassure, nous reviendrons l'an prochain. C'est la troisième fois qu'il monte à bord de Wagon Livre. La première fois, nous l'avions rencontré, c'était en 2015, lors de sa résidence d'écriture à la Maison Jules Roy à Vézelay. Écrivain et poète, il nous vient du Québec. Actuellement en France pour assurer la promotion de son troisième roman sorti mi-novembre dernier aux éditions Viva, j'ai le plaisir, une fois de plus, devant le micro de Wagon Livre, de retrouver Christian Bilodeau. Bonsoir Christian.
Alors bonsoir Yannick, alors le plaisir évidemment est partagé.
Merci Christian. Partage ce soir aussi autour de ton troisième roman.
Ouais, voilà.
Cinquième livre,
sixième en chantier qui s'appelle « Je te survivrai ». Et voilà ce nouveau bébé, ce nouveau roman, « Terre de souche ». Comme vous le disiez en introduction à vos auditeurs, un livre qui a trouvé sa voie à Vézelay à l'occasion d'une résidence en littéraire. Et il a trouvé son souffle en 2015. Et c'est terminé il y a quelques mois pour avoir le bonheur d'être édité par une petite maison d'édition de Chicoutimi. C'est ce que je voulais d'ailleurs. J'ai changé de maison d'édition parce que je voulais une maison d'édition où mes personnages avaient traversé la mer et où ils avaient vécu, étaient devenus des pionniers, un peu des géants de pays. Alors je voulais rester un peu dans cette texture, dans cette voix, dans cette image d'Antoine, d'Émilie au Saguenay-Lac-Saint-Jean après avoir traversé la Bourgogne, avoir sorti de la Bourgogne.
C'est un roman d'amour, c'est aussi un roman d'aventure, Terre de souche, qui nous emmène au tout début du XXe siècle, donc juste avant la Grande Guerre, aux côtés d'un couple bourguignon qui est pris d'aventure et de vie nouvelle, a les yeux tournés vers le Québec pour s'y installer. Et ce roman, bien évidemment, c'est une œuvre de fiction, Christian, mais derrière ce roman, c'est aussi la vie des ancêtres de Christian Bilodeau.
Absolument. Le souffle, comme écrivain, j'étais touché un jour par la lecture d'un texte d'une lettre de l'arrière-grand-mère bourguignonne, qui était de Pluvet.
En Côte d'Or,
à sa fille, installée à Péribonkor, au Lac-Saint-Jean, Sainte-Jeanne-d'Arc. Et cette lettre, je sentais tout le désarroi de ces mots, de cette maman qui avait perdu finalement sa fille, ses petits-enfants. Elle avait une fille et un fils. Et ça m'a tellement touché, tellement ému, j'ai tellement ressenti la souffrance de ces bourguignons qui ont traversé la France, mais surtout de ceux qui sont restés et qui étaient évidemment à des milliers de kilomètres de ceux qui leur sont chers, que je me suis dit, oh, il y a une souffrance là. Et on avait, peut-être qu'au Québec, on a oublié qu'il y a des Français. D'abord, nous sommes une société, une civilisation française, francophone. Nous sommes issus de ces souches. Voilà pourquoi que Terre de souche a deux sens, deux significations. D'abord, la souche première qui est la France. Et cette émotion que j'ai ressentie, cette souffrance que j'ai ressentie de part de la mère, de la famille, qui ne reverront plus jamais leurs enfants finalement dans la réalité, mais dans la fiction, les gens liront, verront autre chose peut-être, sûrement même. Alors ça m'a donné ce goût de parcourir cette vie de deux bourguignons qui un jour décident de traverser la mer en 1907. Mais tout le roman s'ouvre quand même sur la France. Et je trouvais important d'ouvrir le roman sur le pays du premier ancrage.
Ton héros se prénomme Antoine, donc il est né à Auxonne, en Côte d'Or, en 1880. À l'âge de 16 ans, il est boucher-charcutier.
Ouais.
Il rencontre une très jolie jeune fille, en la personne d'Émilie, qui, elle, est amenée à devenir institutrice. Elle est à l'école normale à Dijon. Et c'est, au début du roman, la vie insouciante dans une France qui a conservé ses traditions, une France encore un peu insouciante, quelques années avant le désastre de la Première Guerre mondiale, que certains pressentent dans le roman, d'ailleurs.
Oui, parce que la géopolitique, tous les politiques et les hommes militaires, les militaires de haut niveau, conscients des stratégies et voyant un peu les alliances entre l'Allemagne et d'autres pays, la France, avec deux ou trois autres pays, il y a eu des alliances comme ça, tripartites, partout en Europe. Et tous ceux qui étaient instruits des stratégies politico-militaires, économiques, pressentaient qu'il allait se passer quelque chose d'extrêmement important en Europe. Alors, c'était cette Première Guerre mondiale, 1914-1918. Et dans ce souci aussi, parce qu'Antoine a fait son service militaire dans le roman, et son sergent, qui est devenu son patron, l'a bien avisé que peut-être que ce serait bien pour lui de quitter pour le Canada, compte tenu que son père, à ce fameux sergent, était un haut gradé dans les forces françaises. Et dans les discussions familiales, à bâton rompu avec des amitiés, on parlait beaucoup de géopolitique en Europe. Et Antoine avait bien saisi le message. Et surtout, quand son patron, qui était son ancien sergent, à l'occasion de son passage chez les militaires, il a bien compris le message. Et d'abord, c'est un jeune homme qui était épris d'aventure. Il avait un goût de liberté. Il ne voulait surtout pas faire la vie de son père. Et pourtant, ce n'est pas que charcutier boucher. La charcuterie-boucherie, c'est noble, surtout en Bourgogne, quand on sait comment que la charcuterie peut nous rendre heureux, satisfaire nos palais en bouche, nous faire saliver de plaisir à la table. Mais lui, son désir profond à 16 ans, 17 ans, il était fougueux, passionné. C'est un jeune homme aussi qui réussissait très bien à l'école. Et pour aider son père à la boucherie, parce que les années étaient difficiles, il est obligé de quitter l'école. Alors, et dans sa tête, il voyait son père avec les yeux mouillés à l'occasion, dans des silences, dans des retenues. Et il essayait de comprendre pourquoi ses yeux mouillés. Et un jour, il a saisi, possiblement que ses yeux mouillés sont... ça représente peut-être aussi une peine, un chagrin de ne pas réaliser la vie qu'il aurait aimé réaliser. Alors, ça part de Sonne, ça part de tout ça, de cette primaire adolescence, 15-16 ans, où c'est un fougueux, il aime bien les bagarres dans les cours d'école, il est studieux, il écrit, au grand plaisir de sa mère.
Il n'est pas très pieux quand même, il n'est pas très attaché à la religion.
Non, c'est plutôt, je dirais, agnostique. Au contraire d'Émilie, qui est extrêmement pieuse, très, 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 très pieuse. D'ailleurs, ils font leur voyage de noces à Vézelay, à l'église romane de Vézelay, la grande cathédrale, la grande basilique. Et lui, il serait vu au Mont-Blanc en train de faire de l'alpinisme sur la mer des Glaciers à l'époque.
Lui, c'est un conquérant.
Ah non, lui, c'est un conquérant.
Il a l'esprit conquérant.
Ah non, lui, c'est un conquérant, c'est un battant. Tu ne peux pas le tenir entre quatre murs, c'est un manuel. Mais c'est aussi quelqu'un qui écrit son petit journal au quotidien. Alors, ça demande quand même une plume. Et voilà. Et voilà le caractère, le tempérament. Tandis qu'Émilie, c'est tout un phénomène. Excusez-la. Mais c'est la femme d'aujourd'hui. Elle est revendicatrice. Sous ses allures de douceur, de cheveux blonds, aux yeux bleus, d'azur, des yeux bleus sur lesquels on aimerait s'y plonger dans l'éternité. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'il est tombé carrément en amour fou de cette jeune Émilie qui arrive à la charcuterie-boucherie avec son père. Et quand Antoine la voit, tout de suite, il y a un coup de foudre pour son allure, son aura, sa façon d'être en relation, et puis il la trouve cultivée et il la trouve jolie. Alors, évidemment, la vie a fait en sorte qu'ils ont pu aller un peu plus loin là, dans cet élan d'amour.
Dans Terre de Souche, nous sommes donc en 1906, au moment où commence le roman, il y a aussi il faut le rappeler, c'est une période où la France a un empire, où la France a des colonies. Il est beaucoup question de l'Algérie, qui a été aussi
Absolument.
Une terre de peuplement, hein, une colonie de peuplement pour la France. Mais Antoine, ton héros, dans un premier temps, il a envie de changer d'orientation professionnelle.
Ouais.
Et donc, il va quitter cette Côte d'Or originelle pour aller dans la Nièvre. Et là, il est un peu comme toi, terriblement séduit, attiré par le Morvan. Est-ce que tu aurais pu être, comme lui, attiré par le travail du flottage du bois ici,
à Clamecy ? Oui, absolument, carrément. Parce que je pense qu'aucun aucun de vos lecteurs n'imagine qu'un écrivain ne s'investit pas, ne s'inscrit pas lui-même au travers de ses mots. Évidemment, il y a toute la partie fictive. Mais moi, à 15-16 ans, du tempérament que j'ai, et avec la vie que j'ai menée, c'est le genre, j'aurais aimé devenir compagnon de rivière, voyager, découvrir le monde. Au fond, c'est vous, le paradoxe de ma vie, c'est que je le fais à 60 ans. Je réalise à 60 ans, je l'ai fait toute ma vie. Mais là, je suis sac à dos, léger. Je suis un oiseau, je vis comme un oiseau. Alors, ce qui me permet de me consacrer totalement à l'écriture. Et au fond, je fais la vie. La vie, peut-être que mon héros, dans mon roman, a voulu faire, a réalisé. Parce que son père ne l'a pas réalisé.
C'est Christian Bilodeau, écrivain, poète et romancier, qui nous accompagne pour évoquer donc son dernier roman, Terre de souche, un voyage au pays des neiges et du froid aux côtés d'un couple courageux qui quitte sa Bourgogne d'origine pour traverser l'Atlantique sur un paquebot pour vivre ses rêves en allant s'installer au Canada et plus précisément au Québec. Christian, on marque, si tu le veux bien, un premier intermède musical et on se retrouve dans une poignée de minutes.
Toutes les larmes de ton corps et dehors, tu n'es pas prêt encore. Oui, pleure, le bonheur évanoui et meurt pour renaître à la vie. Car sur le sommet comme le soleil.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Terre de souche, c'est le titre du dernier roman de notre invité Christian Bilodeau, un roman disponible aux éditions Viva. Alors, Christian, au début d'émission, je ne t'ai pas suffisamment présenté. Tu as surtout eu une carrière dans l'univers artistique, l'univers de la chanson, et tu as côtoyé des gens très importants au Québec.
Eh oui.
Entre Québec et France, parce que tu as fait beaucoup les allers-retours.
Bah, ici, c'est mon 36e voyage en France, en Europe. Mais en France plus précisément, parce que la France, de tous les territoires, les pays que j'ai visités, c'est mon plus grand pays de coup de cœur. Je considère que c'est un des plus beaux pays au monde, la France. Au niveau de sa géographie, ses territoires, sa culture, et tout, et tout. C'est un bonheur. Moi ici, la France, ça me colle à la peau et au cœur. Et j'aime le Québec. Pourtant, je suis très, très québécois. Mais ce qui n'empêche pas d'avoir ce coup de cœur au travers de tous les endroits où j'ai voyagé, c'est la France qui est mon repère.
La France serait-elle ta deuxième patrie?
Absolument.
Alors, tu as été communicateur, gestionnaire culturel, animateur, conférencier au sein de milieux scolaires, culturels et également littéraires. Tu es cofondateur de l'espace Félix Leclerc sur l'île d'Orléans au Québec. Tu as été président de cette fondation, la fondation Félix Leclerc, pendant une dizaine d'années, de 1994 à 2004. Ouais. Et puis, tu as travaillé avec des artistes qu'on connaît bien, Raymond Devos, Charles Aznavour, Linda Lemay. Après, sur la quatrième de couverture, il y a peut-être des moins connus pour nous Français, Chloé Sainte-Marie, Richard Séguin, Marc Favreau, Jean Lapointe.
Oui, ben, ce sont des artistes québécois, disons, très connus. Mais oui, Raymond Devos, je suis le dernier à avoir produit Raymond Devos au Québec. Avant sa mort, Raymond est décédé 2 ans plus tard. Il s'est développé avec Raymond Devos une amitié tout à fait particulière, compte tenu qu'il aimait beaucoup Félix, c'était un grand ami de Félix. Et compte tenu que j'étais 9 ans pratiquement avec la fille de Félix Leclerc, où c'était une grande passion amoureuse, et ce qui a fait en sorte que la création de l'espace Félix Leclerc... Oui, c'est vrai, j'ai une vie assez mouvementée, mais j'ai eu cette chance, ce bonheur.
Riche et original.
Ben, je pense assez original, assez riche. Mais moi, j'ai un homme déterminé. Hein. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui m'arrête dans la vie. Quand j'ai un rêve, j'évalue mes outils. Je suis un homme aussi très rationnel. Il faut faire attention. C'est pas parce que j'ai le côté artistique très développé que j'ai pas le côté rationnel en moi. Je suis très lucide. J'évalue mes outils. Et si je considère que j'ai ce qu'il faut, ou si je manque d'outils, est-ce que j'ai la volonté d'être capable d'aller chercher les outils qui me manquent dans la durée. Et après ça, je réalise mes rêves. Et l'espace Félix Leclerc, il n'y avait rien pour m'arrêter. Parce que dans l'univers de Félix, Félix m'a ouvert toutes les portes. Et il s'agissait d'avoir une bonne attitude avec des gars comme Raymond Devos, comme Charles Aznavour qui nous a reçus je ne sais pas combien de fois au Festival de Troyes, à l'île de l'Orient, partout. On a créé des spectacles avec lui. Guy Béard... On a vraiment fait le tour. On a eu des gros événements au Salon des Maréchaux, au Palais Royal à Paris, avec le ministre d'Oust Blasi, et tout et tout. Mais vraiment, c'est une vie absolument incroyable. Ces 10 ans-là, c'est fou, là, c'est le paradis sur Terre.
Durant la pause musicale, tu m'as dit combien tu aimerais lire la quatrième de couverture de ton roman. Alors, je te laisse la lire. Et puis ensuite, on parle de Clamcy, qui est une ville qui a son importance dans le roman intitulé Terre de souche.
Absolument, qui est comme une forme de pierre angulaire, finalement, pour toute la suite des choses. Oui, je voulais lire la quatrième de couverture, parce que je considérais que pour le lecteur, tout de suite, il ressentirait un peu les éléments du roman, le contenu du roman. Alors, si vous permettez, je débute. Alors, épris d'aventure, Antoine n'imaginait pas passer sa vie en Bourgogne, boucher, charcutier comme son père. Une existence confortable, mais monotone. Il rêvait de grands horizons. Fasciné par ses flotteurs, voguant vers Paris sur d'immenses trains de bois qui, depuis Clamcy, allait ravitailler la capitale en bois de chauffage, il décide d'être l'un des leurs. Puis, son regard se porte beaucoup plus loin. Il rêve de ces immenses contrées qui, au Canada, ne demandent qu'à être mises en valeur. Cependant, elles exigent des hommes forts, ambitieux, courageux. Accompagné d'Émilie, son épouse, il se sent prêt. Des rencontres fortuites vont forcer le destin. Le jeune couple s'embarque pour ce pays, ignorant les difficultés qu'il lui faudra surmonter. C'est toute une aventure que ce roman nous fait vivre, celle de ces pionniers qui, en ce début du 20e siècle, vont forger ce que l'on appelait la Nouvelle-France. Alors, des personnages simples, des êtres simples, mais animés, habités par une passion, une intensité, un rêve de conquérir d'autres univers, d'autres endroits, et d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs et aller découvrir qui ils sont dans cet autre ailleurs. Ils sont devenus des pionniers.
Oui.
Ils sont devenus représentants, bon, à Paris et tout, mais ils sont devenus tous les deux des pionniers, des géants de pays. Ils ont contribué à bâtir le Québec. Et c'est cet hommage, et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Je veux dire aux Français, aux Bourguignons entre autres, que sans eux, sans toute cette corde de Français, le Québec ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce que la France a souffert au Québec aussi. Il y a des Français que... Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que c'est de partir de Paris, du 13e arrondissement, ou peu importe, ou de la Bourgogne plus douce, plus doucereuse, plus... Et arriver dans un pays à moins 30, où le premier voisin est à 2 km dans le rang 17, au travers de la forêt... Une forêt dense, des rivières complètement tempétueuses, chicanières comme c'est pas possible, et tenter de survivre et vivre dans un camp en rondin, en bois, avec un petit poêle qui chauffe à moitié, et où Émilie met bas un petit bébé. Il fait tellement froid qu'elle a du givre dans les cheveux. Alors, c'est quand même pas rien là, comme changement de vie. Alors, moi, je vous dis, je suis Québécois. Et je vois le Québec d'aujourd'hui et je me dis, je ne peux pas. Évidemment, parce que ma grand-mère est dans mon sang, et c'est peut-être moi qui est dans son sang, elle, et le sang de mes ancêtres, mais je ne pouvais pas ne pas souligner ce côté très constructif, très positif, très riche de la part de la France au développement de la société québécoise.
Avant que de se rendre au Québec, Antoine change donc de métier, il abandonne la boucherie-charcuterie, n'a pas envie que son existence professionnelle colle avec celle de son père, et il vient un certain temps à Clamecy, attiré par l'activité dominante de cette ville de la Nièvre, qui est l'activité du flottage du bois. Alors Christian, j'aimerais que, là aussi, Clamecy, c'est une ville qui t'est devenue chère depuis ta résidence d'écriture à Vézelay en 2015.
Oui, c'est une ville, Clamecy, médiévale. C'est la ville du flottage du bois. C'est la ville qui a chauffé Paris pendant 350 ans. Paris se chauffait à partir de la forêt du Morvan. Et Clamecy était le lieu du rassemblement des bûches de 1,14 m. C'est très précis. Et d'ailleurs, à cet effet, je dois ouvrir une parenthèse pour remercier mon ami Jacques Dupont, historien, parce que dans ce roman, tous les ancrages historiques, sociologiques, sont appuyés par le regard de gens connaissants. Je ne pouvais m'imaginer, moi, Québécois, arriver ici. Et d'ailleurs, j'ai tellement appris, Yannick, je vous dis, j'ai souffert. Je le dis à vos lecteurs. C'est le roman qui m'a fait le plus grandir, qui m'a fait souffrir, parce que je me devais, parce que les Français sont très pointilleux. Les littéraires français ou les Français, les lecteurs en général, il faut que ça soit vrai. La Tour Eiffel, c'est pas en 1910. Il faut que les dates soient précises. Il faut que tout soit vrai. Alors, j'avais intérêt à pas créer le téléphone en 1907-1908 quand Antoine voulait communiquer avec sa belle à Dijon, parce que ça se faisait pas. Alors, voyez-vous, c'est tous des éléments bons. Alors, Clamecy, c'est enfin, c'est la réalisation, parce que le père, M. Poivre, qui qui s'occupe de monoculture à Pluvet, vient faire charcuterie-boucherie, vient acheter charcuterie-boucherie avec Émilie. Et à un moment donné, Antoine est invité à Pluvet. Et dans cette invitation, monsieur, il dit à M. Poivre, qui deviendra un jour son futur beau-père, sans qu'il le sache, dans l'espérance, probablement, dans le fond du cœur, qui aimerait devenir compagnon de rivière. Et son beau-père dit, « Ah oui, tu voudrais devenir compagnon de rivière? » Il dit, « Moi, je connais une dame qui a un contact à Clamcy. Et tu vas aller rencontrer cette dame. » Et elle lui a fait rencontrer La Fouine. La Fouine, qui est un personnage qui, lui, travaillait pour les marchands de Paris. Parce qu'il faut comprendre que ce sont les marchands qui achetaient le bois et qui leur vendaient à Paris. Hein? Alors, lui, il était un directeur général. Alors, il était voir La Fouine. Et son rêve, c'était, dans ses tribulations de l'esprit, qu'est-ce qu'il voyait à 16 ans quand il était obligé d'arrêter l'école? Il voulait une vie d'aventure, une vie solide, une vie d'homme dur, mais en même temps, une vie de solidarité. Et une vie où il allait découvrir des choses. Alors, partir avec un train de bois de 70 mètres de long, sangler au travers jusqu'à Paris, imaginez le voyage, le périple, il devient petit homme derrière, parce qu'il y a l'homme de devant qui est vraiment le navigateur, et lui, il s'attend à ce que les badauds le long de la Seine soient en train d'applaudir, fassent ces applaudissements, et crient, acclament leur allégresse, leur reconnaissance via ceux qui viennent chauffer les fours de bouche et tout et tout. Mon cher Yannick, la vérité n'est pas du tout, mais pas du tout dans cet esprit. Le premier train de bois, probablement, mais par la suite, non. Il retournait à pied, il faisait 50 km pratiquement à pied, des arrêts chez des aubergistes, amis, des flotteurs, et voilà. Alors, il commence son travail de... d'abord, premièrement, il n'est pas petit homme de derrière. Au début, il fait du classement de bois et tout et tout. Et le bois était très surveillé. Alors, les gens vont découvrir un segment de leur histoire, ici à Clamcy, qui est extrêmement puissant, extrêmement important, mais qui ne dénature pas la réalité. J'ai pas voulu surenchérir le côté de la beauté de la chose. J'ai voulu amener tout simplement un regard, un vrai regard.
Est-ce que je peux te demander, Christian, de nous lire un passage dans lequel il est question de cette haute activité du flottage du bois qui a duré très longtemps. Hein. On considère d'ailleurs que le premier train de bois arrivant à Paris daterait de 1547, selon les historiens.
350 ans. Alors, les Québécois, et si vous me permettez, Yannick, si on a un peu de temps, mais je veux vous sachiez que nous, au Québec, vous savez, moi, mon grand-père, c'est un bûcheron, c'est un homme qui est devenu... en charge d'une équipe d'hommes de forêt, d'hommes d'arbres, de bois. Et on faisait la drave. La différence, c'est que nous, on drave sur nos rivières. On a dravé avec...
Donc la drave, c'est l'équivalent québécois du flottage du bois?
Non, le flottage, c'est pas de la drave. La vraie drave, c'est au Québec. La drave, telle qu'on la connaît, c'est au Québec, parce qu'ils sont sur des pitounes, qu'on appelle. C'est des grands morceaux de bois en rond. Qui mesure 4-5 mètres facilement. Et ça tourne sur l'eau, sur les rivières. Et ils doivent contourner les rapides avec ces... Et ça demande une dextérité, une agilité. Mais la différence, c'est qu'en France, il a fallu du génie. Et je dis pas ça. Moi, je suis Québécois et je suis très fier du Québec. Mais il faut reconnaître que si le flottage existait ici, c'est parce qu'il y a des génies. Imaginez la Cure, la Lyonne, qui sont quand même pas des gros cours d'eau, comparés aux rivières, la rivière Mistassini, Mistachibi ou Lac Saint-Jean. Je veux dire, c'est incroyable. Il n'y a aucune comparaison possible. Mais aucune comparaison possible. Mais le génie français a fait qu'on était capable de créer des marais, être capable de prendre des petits ruisseaux gros d'un mètre de large et de monter le flux de la Lyonne et de la Cure pour être capable d'amener le flottage. Alors, ce sont tous ces ingénieurs, ces génies français qui ont permis à ce flottage et d'amener ce bois à Paris. Et ça, c'est important aussi. Alors, moi, je vais vous lire un passage. Bon, alors, notre ami Antoine, il a son travail. Alors, il retourne par le train et il annonce à grand renfort, avec verbe et gestuel à l'appui, et toute sa fougue de ses 17 ans, qui a un travail maintenant comme flotteur à Clamecy. Et voilà, toutes ses aspirations, ses rêves vont se réaliser, devenir navigateur jusqu'à Paris. Mais pas tout de suite. Alors, je vous lis.
Donc, c'est un extrait de Terre de souche, le dernier roman de
notre invité. C'est le chapitre 3. Ça, c'est le chapitre s'appelle « Entre le rêve et la réalité ». Alors, ça, je pense que là, ça va bien situer les gens par rapport à ce qu'a vécu Antoine, entre autres, à Clamecy. Alors, si vous permettez, j'y vais. Alors, lors de ma première année de travail sur les ports de Clamecy, mes pensées se conjuguent à celles de ma belle de Pluvet. Nous nous écrivons chaque semaine. Nos sentiments l'un pour l'autre ne faiblissent pas. Ils s'enrichissent d'un terreau toujours plus grand. J'apprends tous les rudiments du flottage de bois sous la supervision presque paternelle de la fouine, mais je découvre aussi la pénibilité du travail des hommes. Un travail irrégulier, mal payé, des contrôles très stricts à toutes les étapes. Je ne m'attendais pas à être sous le joug d'une organisation aussi exigeante, moi, épris de liberté. Ça, c'est important quand même, parce que lui, il cherche la liberté. Les premières femmes, les femmes et les enfants de 7 ans et plus travaillent à la dure, le long des ports. Mes compagnons m'observent avec méfiance depuis le début de mon embauche. Je réussis à établir un lien de confiance en partageant le pinard avec eux au bistrot. J'ai l'étrange sensation qu'ils voient en moi un délateur, un mouchard à la solde de je ne sais qui. Ce qui me titille l'esprit et la suspicion qui entoure le semblant de cadeau octroyé aux flotteurs. Ce fexe de 7 bûches, 5 seulement pour les enfants, de mauvais bois, impropre à la construction d'un train de bois et qu'ils ont le droit d'emporter après leur journée de travail. Il est exigé que ce lourd fardeau soit porté sur l'épaule, car la ville est sillonnée de gardes qui, même de loin, peuvent tout vérifier et sanctionner cruellement le moindre entorse au règlement. Je me dis que ce cadeau se trouve remboursé par une économie de travail sur le nettoyage des ports. Bon, alors voilà, c'est un peu l'atmosphère, l'ambiance.
C'est la découverte, effectivement, ouais, la découverte. De cette ambiance très particulière d'hommes courageux, surveillés, dans une ambiance très virile, même si les enfants travaillent aussi parfois.
Oui, mais en même temps, il ne faut jamais oublier que les flotteurs avaient un pouvoir face à l'État, un des pouvoirs les plus importants en France. N'oubliez pas que l'État français a besoin des flotteurs.
On revient avec Christian Bilodeau et Terre de souche dans une poignée de minutes. C'est Wagon Livre sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Écoutez d'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient. Que j'ai l'air fin, que j'ai le museau fin au malin. Mais de la vie je ne sais rien. Est-ce que c'est le TGV si vite arrivé, ou la paresse de l'express, du temps passé? Est-ce que c'est 87, les chaussons dans la cuisine, ou le pauvre petit 27 de Janis Joplin? Est-ce que c'est long ou court la vie? Est-ce que c'est con ou lourd? Écoutez d'où ma peine vient. Elles disent toutes que j'ai l'air fin, que j'ai le museau fin au malin. Mais de l'amour je ne sais rien. Est-ce que c'est la longue distance et les caresses au long cours? Ou est-ce qu'on est pour le parcours court? Est-ce que c'est les cloches qui sonnent, les chapeaux king size,
pour les petites Paris Hilton, à la tequila sunrise. Est-ce que c'est l'heure? Court l'amour. Est-ce que c'est con et lourd? Écoutez d'où ma peine vient. Ce blanc nous regarde avec des yeux drôles. Est-ce qu'une hard rain is gonna fall? Est-ce que c'est long? D'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Avant de reprendre notre échange avec Christian Bilodeau, je voudrais remercier Philippe Gouttereau, le directeur de la médiathèque de Clamecy, qui nous accueille, hein, puisqu'il nous a trouvé ici la salle audiovisuelle où nous enregistrons cette émission. Donc je tenais à le saluer et à le remercier. Et c'est Christian Bilodeau qui est toujours devant le micro, notre ami et écrivain québécois qui fait paraître aux éditions Viva son tout nouveau roman, hein, sorti mi-novembre dernier.
Ça fait un mois, ouais. Au Québec.
Terre de souche.
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Alors, je voudrais qu'on parle du Canada et de ce Québec que ce jeune couple bourguignon va découvrir. Alors, je ne raconte pas toute l'histoire, bien sûr. Ce jeune couple se marie. Il y a le voyage de noces à Vézelay. Clin d'œil incontournable.
Il se marie à Pluvet.
Vézelay, c'est un lieu aussi qui t'a marqué.
Oui. Je ne peux pas être désincarné de ma propre existence et je ne pouvais pas désincarner de Vézelay parce que Vézelay, ça demeure quand même la colline éternelle, ça demeure un lieu hautement de spiritualité, de chrétienté, et qu'on soit agnostique ou non, comme notre ami Antoine, il en demeure pour moi que Vézelay est un lieu hautement prisé par les touristes de partout au monde et que c'est quand même le début de Compostelle. Bon, alors, comme je suis reçu à la maison Jules Leroy, je ne peux pas passer à côté de Vézelay dans mon roman.
Alors, il y a cette scène des adieux, puisque bien sûr, le jeune couple embarque sur un gros paquebot, le Sardinian. Il y a 503 passagers, dont 75% d'immigrés. Et j'ai relevé cette phrase qui me touche, que je trouve très charmante. Du premier pont, une envolée de bises de la main, telles des outardes qui emportent les rêves couvés d'espérance tout au long des espaces infinis qui mènent aux battures du pays migratoire.
Oui, c'est beau, hein?
Et alors?
J'ai aimé l'écrire en acte. Oui.
Il faut aussi bien comprendre que ces Français sont bien accueillis, néanmoins, il y a des conditions pour rentrer au Québec en 1906-1907. C'est peut-être toujours le cas aujourd'hui, Christian?
D'abord, il fallait qu'ils soient en bonne santé. À toute épreuve. Il fallait qu'ils fassent la preuve aussi qu'ils avaient la capacité de revenir en France.
Avoir un peu d'argent.
C'est ça, avoir de l'argent. Et puis, voilà, je veux dire, s'ils répondaient à ces deux critères. D'ailleurs, le douanier, à l'époque, les douaniers avaient tous les droits. Quand c'est un douanier qui décidait de l'entrée ou non d'un migrant. Et il y a des migrants qui ont été retournés, qui sont retournés dans leur pays d'origine.
Oui, il fallait être en bonne santé, ça tu l'as dit, ne pas être handicapé,
avoir
les moyens pour s'établir.
Ouais. Puis que le douanier à l'œil aussi pouvait avoir un jugement à l'œil sur les personnes. Et souvent, ça pouvait être des décisions qui étaient subjectives. Il y avait ces deux critères de base, mais si tu ne plaisais pas au douanier ou s'il n'y avait pas confiance dans le regard qu'il posait sur toi, ça pouvait jouer pour l'entrée au Canada.
Alors, Émilie et Antoine vont éviter tout de même la mise en quarantaine sur ce qu'on appelait la grosse île.
Ouais.
qui doit exister toujours, je suppose.
Absolument. La grosse île, ça demeure un lieu de mémoire. On
c'est un peu le Ellis Island québécois.
Ouais, c'est ça, peut-être.
Un petit peu.
Oui, ça peut être comparé à ça. C'est qu'à cette époque, pour éviter tout, il y avait eu des problèmes de malaria, des problèmes de santé. Alors, tous les paquebots, tous les bateaux arrivant de par la mer devaient arrêter à Grosse-Île pour ce qu'on appelle la quarantaine. Ces jours de quarantaine pour être que les médecins puissent faire les prélèvements, s'assurer que tout le monde est en bonne santé avant d'entrer à Québec.
Alors, il y a bien sûr ce statut particulier des émigrants. Ouais. Et puis, tu nous fais découvrir la grandeur, la majestuosité. Il y a d'ailleurs des baleines qui accueillent les
Mais c'est beau, c'est Français. Beau parce que, imaginez-vous dans la tête, on est Québécois, nous, Canadiens, puis quand on voit les baleines, on est en extase parce que c'est le mammifère marin le plus gros de la planète. On a l'impression que Dieu existe. Quelque chose de plus grand que nous quand on voit un mammifère semblable. Alors, quand arrive... On est à la hauteur de l'île Anticosti, un petit peu avant. C'est l'île Anticosti qui était achetée par un Français qui s'appelle M. Meunier, soit dit en passant, qui est une des îles les plus... où la faune, la flore est la plus riche. Et ce Meunier français, c'est important. Alors, à la hauteur déjà d'Anticosti, là, c'est terre, terre, et crié par les marins sur le paquebot. Alors, il y a 10 jours de traversée, tout le monde est fatigué, tout le monde est... il y en a qui ont été malades un peu, mais tout le monde en bonne santé finalement. Mais quand tu vois les baleines, c'est la frénésie à bord du bateau, c'est la découverte des premières terres canadiennes, québécoises, et évidemment, en plus, la chance immense de ne pas avoir arrêté à Grosse-Île, de faire cet arrêt de quarantaine, parce que le médecin est intervenu auprès des douaniers de Québec par télégramme en leur disant « J'ai tous mes clients à bord, tous les gens à bord sont en très, très bonne santé. Nous dédouanez-vous de passer par la Lille, parce que si tu arrêtes à Lille, à Grosse-Île, c'est 40 jours. Hein. » Alors, puis d'ailleurs, même moi, comme écrivain, je ne me tentais pas nécessairement à m'embarquer dans 40 jours d'écriture de cette période difficile.
Cette découverte du Québec par ce jeune couple bourguignon, c'est un exotisme autre que celui de la découverte de l'Algérie ou de l'Indochine à la même période.
Ah, ben oui, absolument. On est dans un autre monde. On arrive carrément dans un autre monde.
L'estuaire du Saint-Laurent, Montréal.
Oui, parce que l'estuaire du Saint-Laurent, c'est majestueux. Hein. C'est grandiose. Tous les Français que j'ai rencontrés, et sans être chauvin ou sans être faire des superlatifs concernant la géographie du territoire, en demeure pour moi que c'est assez impressionnant, merci. Alors, quand les Français, mes Français arrivent, quand Antoine, la famille, les gens arrivent dans l'estuaire du Saint-Laurent, découvrent aussi l'île aux grues, l'île d'Orléans, l'île de nos ancêtres, et voient cette ville avec le Cap Diamant, le Château Frontenac et tout, ils sont subjugués. Et en plus, on entend parler français. On vient de traverser la mer pendant 10 jours pour entendre parler français. C'est assez exceptionnel.
Alors, le jeune couple devient bâtisseur de pays. Ouais. Et ils sont heureux d'avoir quitté, là je te cite, la vieille France sclérosée, trop administrative, trop hiérarchique. Tu crois qu'elle l'est encore, la France actuelle, trop sclérosée, trop administrative?
Vous voulez que je sois...
Je te demande d'être sincère.
Sincère et honnête et authentique.
J'aimerais bien.
Bon, depuis 2015, ça fait 3 séjours que je fais de 3 mois, ça va en faire 4 hein, le prochain, parce que je quitte le Québec 10 jours, je reviens après pour terminer. La France change. Je sais pas. Je trouve que la France est plus... Les Français sont plus tristounets. Je sens aussi la lourdeur administrative chez les Français. Je sens que ça les accable, toute cette lourdeur administrative. Nous, on est des Américains du Nord. On n'a pas la panacée de toutes les qualités et de tout. On a nos défauts. Mais j'avoue que cette administration française, à ce que j'entends, parce que moi, je suis quand même choyé en France en ce moment, mais de ce que je vois, ce que j'entends, oui. Et je sens une tristesse. Depuis les attentats, depuis tout en France, faut se dire les vraies choses. La France change. Il y a une morosité ici en ce moment.
Christian, on marque une petite pause musicale et on retrouve nos auditrices et auditeurs d'ici quelques minutes.
changer l'ordre des choses.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Terre de souche, c'est le titre du dernier roman de notre invité Christian Bilodeau. Cette terre de souche, c'est une terre qui demande à être mise en valeur par des colons, notamment à travers la richesse de sa forêt. Alors il y a la forêt du Morvan que tu célèbres à Clamecy, et puis il y a cette gigantesque forêt canadienne, québécoise, qui a déjà été beaucoup exploitée à la fois par les Britanniques, aussi par les Américains. On sent bien que les ressources commence un peu à s'user, et pourtant on est au début du XXe siècle.
Après la conquête de 1660, les anglophones, évidemment, contrôlent l'économie du pays. En contrôlant l'économie du pays, ils créent les scieries, ils créent les pulperies, ils exploitent évidemment la forêt et tout et tout. Le terre de souche, le double deuxième sens, c'est le fait qu'il y a eu un grand brûlé. En 1870, le lac Saint-Jean était victime. Malheureusement, cette grande région a passé au feu. Toute la région. C'était une des catastrophes les plus grandes qu'on a connues en termes de feu de forêt au Québec. Mais à tout malheur, parfois, il y a des fois du bon. Et a poussé de ce feu, a pris naissance le myrtille, que vous appelez en France, mais que nous, on appelle le bleuet. Et ces terres étaient propice à la fois la culture, était un peu sablonneuse, mais très forte aussi en sapin, en épinette, en essences diverses, diversifiées, en bouleau et tout et tout. Alors, Antoine et Émilie deviennent agriculteurs. C'était leur rêve. Ils ont acheté une terre. On le voit d'ailleurs, toute la négociation, parce que Antoine, il s'est négocié. C'est pas un deux de pique, là, Antoine. Il arrive pas là sans... Son père lui a montré comment négocier. Alors... Il n'achète pas n'importe quoi. Mais c'est surtout de voir la réaction d'Émilie quand elle rentre dans le camp à Boiron. Alors, il y a toute cette vie et ces rencontres absolument incroyables. Il y a des intrigues tout le long du roman.
Il y a un Indien aussi. J'aime bien aussi le passage.
Il y a cet Indien. Il y a Robinson. Alors, on arrive...
Le ragout de castor, c'est original.
Ouais. Ben, c'est parce que, premièrement, son premier village, il part à pied avec son bâton de pèlerin et il va pour s'acheter une terre. Mais à pied, il part de Robertval, de la maison des colons. Et... Premier village, c'est Pointe-Bleue, aujourd'hui qu'on appelle Mastouillache. Et Pointe-Bleue, il rencontre Robinson, son Amérindien. Et ça, il tombe en amitié. Et là, il goûte au castor. Il fait, écoute, je ne sais pas si vous avez déjà mangé du castor, mais je dis à vos auditeurs, c'est assez fort en bouche. C'est gras, c'est très gras. Et ça vous laisse un goût dans la bouche des fois quelques jours. Hein.
Alors Christian, pour faire saliver un peu nos auditeurs, par exemple, à un moment, il est question d'un bol de soupe aux gourganes avec du pain de ménage. Alors, qu'est-ce que du pain de ménage et que sont les gourganes?
Bon, la gourgane, c'est une grosse fève. C'est une fève rouge qu'on fait cuire, qu'on fait bouillir avec du barley ou du riz et des petits oignons et tout, assez épaisse. Ça fait un bol... Ça fait un plat assez épais en termes de... C'est très consistant. Et avec un pain de ménage, c'est du pain fait maison au four à bois. Pain dont il est cuit dans ce four à bois. Et avec du beurre, barraté avec du beurre. C'est magnifiquement bon. Et il y a la tourtière du lac Saint-Jean.
Alors, et du pain de fesses, Christian. Qu'est-ce que
pain de fesses? Ben, c'est parce que ça ressemble à une paire de fesses. C'est pas compliqué. C'est un pain avec deux... C'est comme, c'est bombé de chaque côté, on dirait vraiment une paire de fesses. Alors, c'est aussi simple que ça, on appelait ça chez nous une paire de, du pain de fesses.
Ah oui, les questions de la tarte au sucre d'érable,
ouais.
Les bleuets, tu l'as dit.
Absolument, vous, parce qu'ils vont au bleuet.
Nos myrtilles.
Oui, hein? Parce que dans mon roman, je les envoie au bleuet, ils rencontrent un ours, et c'est la découverte pour la première fois de la rencontre avec l'ours. Et là, c'est quelque chose. Il y a la tempête de neige aussi.
Il y a aussi un très beau, passage sur la tempête. La
tempête de neige, ça, c'est assez fabuleux. Mon ami Antoine, il a passé à deux cheveux de mourir, là. Il a appris. Là. Et Émilie n'était pas très contente. Mais là, Émilie, c'est la première qui conduit la carriole au premier Noël, à prendre la carriole, puis c'est elle qui conduit. Puis elle dit à Antoine, c'est pas toi qui conduis, c'est moi. Elle est arrivée à la petite chapelle de Péribonca, et toutes les femmes ont vu que c'était elle qui conduisait. Là, Émilie, elle a du tempérament. Elle parle moins. Mais la vraie chef, celle qui, à quelque part, amène ses volontés à terme, parce qu'Antoine, d'abord, il en est tellement amoureux, mais c'est pas un cave, Antoine, c'est pas non plus un mou. Mais il reste que devant Émilie, il y a besoin d'être argumenté parce qu'Émilie, c'est une femme très d'avant-garde.
Alors, on n'aura pas le temps de mettre
non,
en valeur tous les aspects du roman. Faut inviter ceux qui nous écoutent à se procurer le roman.
Oui, parce que la fin est assez... Il y a des choses que les gens ne s'attendront pas dans le roman, là, c'est sûr.
Absolument.
Ouais.
Citation d'un des personnages qui dit « Plusieurs d'entre eux n'ont pas toffé. C'est rude comme climat, le Québec. Il faut être fait fort pour vivre ici. » Toffer, qu'est-ce que ça veut dire?
Perdurer, durer, être dans la durée. Parce que c'est un pays... d'ailleurs, quand Antoine rencontre Joseph, le maquillon, qui vend des chevaux, et que Joseph lui serre la main, il y a tellement de grosses mains, Joseph, qui est maquillon, parce qu'il a besoin de s'acheter un cheval. Il s'achète un petit cheval canadien qui était importé par Louis XIV ici. Il serre la main de Joseph. Il les connaît, les Québécois. Ils ont des mains tellement grosses, puis tellement épaisses, puis tellement fortes. Mais Antoine, c'est pas une fillette, là. Il y a des mains d'hommes aussi, là. Mais c'est comme s'il rentrait sa main dans un étau. Et sais-tu qu'est-ce qu'il lui dit, Joseph? « Ah, mon petit Français, je voulais savoir qu'est-ce que tu avais dans le corps. Mais t'as quand même une bonne poigne. » Tu vas être capable de vivre ici au Québec.
Enfin, c'est le pays des vrais hommes. Et Christian, il y a une expression, c'est page 79, il est question d'un jeune fraîchier français. Ouais. Alors, frais, F-R-A-I-S, trait d'union, chier.
Fraîchier, c'est un peu style dandy. C'est le dandy, c'est celui qui parle toujours, toujours habillé avec les petites choses. Tu sais, nous, on n'est pas français. Quand on est au Québec, dans des pays de forêt... À cette époque, je veux dire, on s'habillait avec de l'étoffe, on s'habillait pas. Alors, fraîchir, c'est de se prendre un peu pour un autre. On aime bien ça au Québec, nous, dire à nos enfants, quand on était plus jeune, ah, prends-toi pas pour un autre. Oui, mais à un moment donné, il faut quand même que le réaliser et qu'il faut être l'autre, faut être soi aussi. Hein.
Hommage au Québec, hommage aussi à ces colons venus de France.
Absolument.
Qui ont contribué vraisemblablement à
l'évolution. Pas vraisemblablement,
certainement.
Certainement. Oui, oui, absolument, il faut dire les vrais mots. C'était des pionniers. La France peut être fière de ce que le Québec est devenu parce qu'elle y a contribué. Hein.
Et c'est ce que le roman de Christian Bilodeau prouve à travers l'histoire de ce couple bourguignon qui, en 1906, quitte sa Bourgogne natale pour aller gonfler le rang des pionniers au Québec, ces terres de souche disponibles aux éditions Viva. On peut le commander.
Ouais, puis ici, il sera disponible à Clamcy, il va être disponible à différents endroits, je vais l'annoncer. De toute façon, il sera qu'on appelle à la librairie Clamcy ou à Auxerre ou à Ossonne bientôt, parce que je vais faire le tour. Je vais aller sur les pas de tous mes personnages. Je vais avoir fait le périple à la fois en écriture et à la fois sur plan géographique. J'aurai fermé la boucle partout.
Comme le petit Pousset, tu vas semer des
Absolument.
Terres de souche.
Je vais semer des petites terres de souche un peu partout et rencontrer mes amis français.
Merci Christian, excellente fin d'année 2017. Rendez-vous en 2018.
La réciproque est pour vous, mon cher
merci,
Yannick.
Merci Christian.
Et un merci encore une fois d'avoir de ce privilège de m'accueillir à votre micro, vous que je considère sincèrement et sans surenchère, comme un des meilleurs animateurs littéraires que j'ai rencontrés dans ma vie d'homme. Et Dieu sait que j'en ai rencontré au Québec. et quelques-uns en France, mais vous êtes d'un professionnalisme. Et je peux dire au bénéfice de vos lecteurs qu'ils sont chanceux d'avoir un gars comme vous à la tête de Raydon, vraiment.
Merci Christian, ouais. tu vas me faire rougir. En tout cas, je te souhaite une belle fin d'année 2017,
merci.
Ainsi qu'à
merci
toutes
beaucoup.
Celles et tous ceux qui fidèlement suivent ce rendez-vous littéraire sur Raydon. Et bien sûr, on redémarre sur de bons rails pour l'année 2018.
C'est ce qu'on se souhaite.
Bonne soirée Christian.
Merci.
Et bonne soirée à vous toutes, auditrices et auditeurs. Au revoir.